Les enjeux internationaux.
6h50, bonjour Thierry Garcin.
Et bonjour Guillaume Erner, la Corée du Sud, donc actualité riche, 130e anniversaire des relations diplomatiques, l'année France-Corée qui se termine à cheval entre 2015 et 2016, la visite d'État à partir d'aujourd'hui, visite d'État en France de la présidente Madame Park Geun-hye, et puis on le sait, la Corée du Sud est l'un des quatre dragons dans les années 60, malgré la division du pays dès 1953, et malgré le fait que beaucoup de ressources naturelles se trouvaient à l'époque au nord. Alors, la Corée du Sud n'a cessé de se diversifier étape par étape et avec succès. Elle a su bénéficier de la convergence d'intérêts entre l'État et le secteur privé. Elle a privilégié l'innovation collective, la culture nationale voulant qu'en mettant en commun son énergie, on renforce celle-ci. L'innovation est son fer de lance en ce moment et Séoul mise sur le numérique. Notre invité Philippe Lee, avocat associé au cabinet juridique Kim Han-chang à Séoul. On revient sur ses 130 ans de relations diplomatiques. Philippe Lee.
Elle remonte donc à 1886, c'est la signature du traité de commerce de navigation entre les deux pays. Donc c'est le 4 juin, on est à quelques jours de la date anniversaire. Et avant la signature de ce traité, le premier contact entre les deux pays, c'est quand même l'arrivée de missionnaires en Corée, dans des conditions quand même, il faut bien le dire, assez tragiques. Puisqu'ils sont arrivés en Corée, il y a eu des massacres perpétrés sur ces missionnaires qui venaient donc développer dans un esprit de prosélytisme la religion catholique, qui aujourd'hui est une religion aujourd'hui très active et très prisée des Coréens, il faut le souligner.
On peut estimer la proportion même très vague des catholiques en Corée ?
Oui, c'est plus d'un tiers, voire 40% de la population. C'est une population qui est très tournée vers la chose spirituelle, vers la religion d'une manière générale.
Les relations sont bonnes ?
Les relations sont bonnes. C'est une relation où il y a des échanges commerciaux qui sont relativement significatifs, des échanges de l'ordre de 8 milliards d'euros entre les deux pays, qui ont été accrus par la signature de l'accord de libre-échange en 2011.
Oui, et un traité d'ailleurs aussi d'association de libre-échange avec l'Union européenne, voilà. Il y a quelques années.
C'est ça, c'est exactement ça. Et ça jouait en faveur de la France. La France, depuis la signature de ce traité, exporte un peu plus que la Corée. On pouvait craindre que la Corée bénéficie plus de l'effet booster de ce traité, mais c'est quand même la France qui en bénéficie davantage.
Alors, juste un mot, mais vraiment à très grand trait, Philippe Lee, et je rappelle que vous êtes avocat associé au cabinet à Séoul, au cabinet juridique Kim Han-chang, et que vous êtes d'ailleurs le président honoraire de la Chambre de commerce et d'industrie franco-coréenne. Alors, à grand trait, l'économie, quelques grands indicateurs?
Alors, l'économie, c'est une économie saine, voire prospère, puisque c'est la 12e économie du monde. C'est une économie où il y a une croissance qui n'est plus celle des grandes années de développement économique, les années 70, 80, voire 90. L'année dernière, on était à peu près à 2,8% de croissance, cette année également. Donc, c'est une économie aussi mature, je crois qu'il faut le souligner. Donc, on ne peut plus espérer des taux de croissance exponentiels comme on les a connus. Une économie qui est forte, on le voit avec la montée en puissance des grands groupes coréens depuis maintenant plusieurs décennies, mais avec des facteurs de préoccupation néanmoins, immédiats et à moyen long terme. C'est vrai que le ralentissement économique, la baisse des cours du pétrole, préjudicie à la Corée, qui est un pays très exportateur et très tourné vers la Chine.
Et puis j'allais vous le dire, il y a la demande chinoise aussi.
Exactement. Je pense que... Et donc le ralentissement chinois fait tousser la Corée. Et puis il y a des enjeux de compétitivité pour les groupes qui doivent conserver leur leadership dans leur secteur. Donc l'industrie navale, par exemple, des chantiers navals.
Oui, vous êtes de grands constructeurs de bateaux, voilà, devant l'éternel.
Étant en mauvais état actuellement, et les carnets de commandes sont vides du fait de la conjoncture économique mondiale. Et puis, on le sait pas beaucoup, mais la population est une population vieillissante.
Alors, j'ai été frappé, j'ai regardé justement ce matin, 1,2 l'indice synthétique de fécondité, 1,2 enfants par femme en âge de procréer et un vieillissement de la population. Alors, les Européens n'ont pas de leçon à donner en la matière à nos amis coréens, parce que c'est également le cas pour nous, mais c'est très très faible.
Oui, c'est très faible. C'est le taux le plus faible parmi les pays de l'OCDE. Et c'est effectivement un facteur de préoccupation pour la vitalité et l'avenir de ce pays.
Alors, vitalité et avenir, vous insistez souvent dans vos travaux, vous avez publié un ouvrage avec deux autres auteurs qui s'intitule très exactement
Agir en mode delivery.
Voilà, donc chez Erol en 2015, et vous insistez notamment sur le moteur de la on va dire de l'innovation.
Oui, parce que on considère que suivant différentes études le poids du numérique par rapport au PIB coréen, c'est plus de 10%. On est en France aux alentours de 5,5-6%, ce qui situe l'importance et le poids du numérique. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme pour différentes actions stratégiques qui ont été élaborées par le gouvernement coréen depuis le relèvement de l'économie après l'occupation japonaise et la guerre de Corée, le plan numérique, c'est un grand plan qui a été lancé au milieu des années 90 avec plus de 40 milliards de dollars consacrés par le gouvernement coréen pour doter toute la nation d'Internet à haut débit. Donc c'était un pari sur l'avenir, c'est-à-dire on se disait à l'époque, on va se projeter vers ces nouveaux outils de communication, on va faire en sorte que les gens communiquent mieux, davantage, et aient accès et se projettent sur une forme de modernité dans la communication. Alors après, on a vu d'autres épisodes avec la montée en puissance de groupes comme Samsung, LG, qui ont développé leurs équipements, les fameux smartphones. Mais ce qui est important de souligner aujourd'hui, c'est que au-delà de l'infrastructure de la production aujourd'hui, la Corée, c'est une économie qui aujourd'hui a compris tous les bénéfices qu'elle pouvait retirer de l'économie immatérielle. C'est-à-dire que, par exemple, on parle de montée en puissance de culture coréenne, notamment avec la K-pop. Ça repose sur l'utilisation et la conjonction de l'utilisation, par exemple, de la 4G, qui permet donc la propagation de données à une vitesse stratosphérique par rapport à ce qu'on a connu dans le passé. Et aussi avec des instruments qui sont, par exemple, le streaming, qui permet de recevoir, de visionner des images, ce que vous souhaitez, où que vous soyez dans le monde et à quelque moment que ce soit. Ce qui explique, par exemple, que la vidéo Gangnam Style, dont on a beaucoup parlé, a été visionnée plus de 2 milliards de fois, 2 milliards de connexions sur YouTube. Et c'est cet instrument qu'aujourd'hui la Corée déploie pour développer sa culture, pour développer son influence dans le monde, et puis pour servir ses entreprises, puisque les entreprises coréennes sont servies à travers ces instruments.
Alors, Philippe Lee, vous insistez pour terminer d'un mot, et c'est très intéressant, sur quand même l'esprit collectif des Coréens, qui explique en grande partie leur ascension remarquable depuis 53, enfin depuis les années 50.
Oui, c'est un pays, je crois, dont la grande force, c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective, c'est-à-dire qu'on apprend depuis le plus jeune âge à travailler avec les autres. Il y a une propension à travers des phénomènes sociaux, sociologiques de ce pays à faire en sorte qu'on est toujours dans un groupe, qu'on travaille ensemble et on veut y arriver ensemble. Et ça se traduit aussi, et c'est amplifié, on en parlait à l'instant, par également le développement numérique, puisque les gens, quand vous rencontrez des personnes à Séoul aujourd'hui, elles ne vous demandent plus votre numéro de téléphone, mais votre messagerie sur la grande messagerie coréenne qui est KakaoTalk. Et ça, c'est effectivement au quotidien, et quand on voit les résultats de la Corée, on voit effectivement toujours le cap fixé, et puis la propension du groupe, des populations, à se mobiliser derrière un projet et à œuvrer en faveur de ce projet.
Philippe Lee, avocat associé au cabinet juridique Kim Eng Chang à Séoul. franceculture.fr pour écouter l'émission, la télécharger. Et puis demain, question posée, pourquoi ne parle-t-on plus de l'Asie centrale ex-soviétique? Et la réponse est apportée ou sera apportée par Patrick Dombrowski.
Et du coup, on va en parler.
Eh bien, on sera bien les seuls.